Merci beaucoup, Johan, pour l'introduction. Merci, Nico, pour la présentation de l'AFP et des membres. Merci à François pour la lecture. On est un peu pris de court. On a Antoine qui a l'habitude de préparer la Sainte-Seine qui n'est pas présent ce dimanche. Et du coup, on a été un peu surpris. Je suis un peu surpris aussi, en fait. On n'avait pas mesuré qu'on était en vacances. Et donc, je vais faire une annonce maintenant. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes au courant puisqu'on a fait tourner un mail. Si vous n'avez pas reçu le mail, je suis désolé, je vais faire l'annonce. Je vais lire ma feuille parce que voilà, j'ai peur que je vais rater une information de ça. Mais en tout cas, vous voulez attendre ce moment de rassemblement pour le rendre officiel. Donc c'est un nouveau défi qui nous attend, Chloé et moi, et que nous avons décidé de relever avec les enfants. Voilà, on voulait vous informer qu'on a donc accepté la proposition de poste qui nous a été faite il y a quelques temps. Et c'est pas sans tristesse que on vous fait cette annonce, mais bon voilà, nous avons décidé de dire oui. Et on pense que c'est le bon moment pour nous d'effectuer cette transition. Et donc nous allons terminer cette année avec vous pour démarrer un nouveau ministère à Tahiti. Bien entendu, on n'est pas aussi important que Jésus. C'est pas le but de cette accroche. Cette accroche avait juste pour nous aider à ressentir un tout petit peu, j'espère que ça a marché, la réaction des disciples à l'annonce de Jésus. Je vais partir. Regardez chapitre 13, verset 33. 13, verset 33. Il y a des ouf de soulagement. Fait, qu'est-ce qui vient de se passer? Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Et plus tard, il va dire au chapitre 16, verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Jésus est en train de partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de préparer ses disciples à vivre cette séparation. Après 3 années intensives de ministère, d'amitié, d'expérience commune, venues nourrir des espérances fortes pour les disciples par rapport à la personne de Jésus, Jésus et les disciples vont maintenant connaître une séparation. Et ça, ça c'est difficile. Ça crée des angoisses. Les séparations génèrent des angoisses. C'est quelque chose qui se répète au cours de notre existence et qui donc nous intéresse tous. Déjà à 9-12 mois, les enfants ressentent des angoisses parce qu'ils n'ont pas compris la question de la permanence des objets. Hors de leur champ de vision, l'objet, le parent continue d'exister, mais ils ne le comprennent pas. C'est pourquoi ils expriment des pleurs. Parfois, il arrive que des enfants aient des angoisses à cause de l'idée de perdre leurs parents. Angoisse de la séparation durant la vie, c'est aussi l'ombre dont on parle peu, mais qui est là, quand même, au-dessus de nos existences. L'ombre d'une séparation qui inquiète et qui fait peur. La séparation liée à la mort. Où allons-nous ? Qu'est-ce qui se passe quand on se sépare des siens? C'est un peu angoissant, tout ça. Oui, la vie, la mort, l'existence humaine est jalonnée d'angoisses existentielles profondes et c'est dans ce contexte que l'encouragement de Jésus vient nous rencontrer. Jean 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. » Le mot troublé, littéralement, il fait ailleurs référence à de l'eau calme qui s'agite. Il est question ici d'agitation intérieure, d'une angoisse. Angoisse que l'on ressent peut-être cet après-midi. C'est vrai, quand on vit une séparation, c'est un choc et sans nier la tristesse et toutes les émotions qui s'associent à une séparation, il existe quelque part un matelas pour amortir ce choc. Il y a une solution aux angoisses profondes et c'est à travers les trois questions que posent les disciples à Jésus qu'ils cheminent ensemble pour voir quelle est la réponse que la Bible apporte à nos angoisses existentielles. Quelle est la solution que Jésus a pour nous ? Est-ce que vous avez identifié ces trois questions qui sont associées à trois disciples différents ? Il y a d'abord Pierre, chapitre 13, verset 36, qui demande « Seigneur, où vas-tu ? » Chapitre 14, verset 5, c'est Thomas qui se lance et qui interroge « Et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» On va comprendre le lien. Chapitre 14, verset 8, c'est Philippe qui à son tour questionne « Seigneur, montre-nous le Père !» Et cela nous suffit. Autrement dit, dans le contexte, Jésus, comment pouvons-nous en être certains de ce que tu es en train de nous raconter est bien vrai ? Donne-nous des preuves. Trois questions qui nous renvoient à trois réalités réconfortantes pour apaiser nos craintes. Nous donner de l'assurance, et on va donner de l'assurance grâce à Jésus cet après-midi avec trois P. C'est facile de faire des acronymes avec des P. La place, le passage et la preuve. La place, le passage et la preuve. Juste une toute petite remarque avant de voir le premier point, la place. Certaines personnes sont plus angoissées que d'autres. On n'est pas tous équipés de la même manière pour faire face à ces angoisses. C'est aussi une question médicale. Et à aucun moment, je ne veux suggérer que si nous ressentons parfois de fortes angoisses régulières, c'est qu'on n'a pas saisi ces vérités. Elles sont d'un grand réconfort. Mais parfois, il faut aussi noter que la condition médicale peut nous affecter aussi particulièrement. Voilà. En attendant, qu'est-ce qui peut nous aider dans nos détresses dans la vie quand on a des angoisses par rapport à ces grandes questions, notamment de séparation ? Versets 1 à 4, la place. Jésus, où vas-tu ? Versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Oui, Jésus est en train de partir. Il est en train de quitter ses disciples. Les prochains chapitres vont nous montrer la fin de la vie sur cette terre de Jésus. Mais il part avec une mission. Il part nous préparer une place, une demeure. Il y a plusieurs belles maisons là où je vais. Il y a de beaux lieux. Là où je vais, c'est super. Jésus, où vas-tu ? Jésus nous rassure et nous parle à nos cœurs en nous parlant de la destination finale de l'existence humaine qu'on appelle souvent dans la foi chrétienne le paradis. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup d'émissions de télé-réalité qui portent sur la recherche d'une maison et d'un appartement. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Ces émissions ? Ok. Chloé et moi, on en a regardé une récemment sur une famille qui vend des biens immobiliers à Paris. Et parfois, la recherche est rendue compliquée par l'acheteur. On visite 1, 2, 3 immeubles et l'acheteur ne semble pas être décidé. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a toujours un petit moment, l'interview de l'agent immobilier. Qu'est-ce que lui, il en pense concernant la recherche du bien immobilier ? Il offre son diagnostic. Si l'acheteur ne trouve pas parmi toutes les belles maisons qui lui ont été proposées, c'est probablement qu'il ne sait pas ce qu'il recherche. Parfois, l'agent immobilier se lâche un peu et va dire quelque chose comme « Ah bah, ils sont à la recherche de la maison parfaite, un peu le paradis, quoi. » Bah, c'est pas faux. Le temps qu'on passe à chercher une maison, à refaire une maison, à équilibrer l'intérieur visuellement, à le ranger, à le soigner, n'est-ce pas un signe d'une recherche profonde à l'intérieur de nous ? une recherche d'un lieu d'habitation, une maison parfaite, un lieu où on se sent bien, reposé. Et peut-être certains le ressentent profondément en eux, quand leur maison est bien rangée, bien nettoyée, et se sentent moins angoissés. Il y a une personne qui nous a dit tout à l'heure, je vais aller ranger ma chambre, parce que j'aime bien ranger ma chambre pour être prête pour démarrer ma semaine. Un chez soi où on se sent bien, réconforté, apaisé. Jésus, il veut nous apaiser. En nous parlant de la destination finale, il va nous préparer une place. Là où je vais vous préparer la place, la maison rêvée. C'est la fin de vos angoisses parce que nous savons où nous allons. Notez rapidement avec moi que ce n'est pas juste le lieu, l'habitat qui est fondamental ici. Ce n'est pas la maison pour la maison qui nous fascine, c'est pour ce qu'elle représente. Un lieu de vie, un lieu de relation, verset 3. Et puisque je veux vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, vous qui m'aimez tant et que j'aime, j'ai hâte de vous y retrouver là-bas et que nous soyons en relation ensemble pour l'éternité. Et ça, c'est depuis le tout début de la Bible, depuis la Genèse. Vous savez comment ça commence, la Genèse ? Ça commence où ? Dans un jardin, avec une relation avec Dieu. Et comment se termine la Bible ? Dans une ville, là aussi, avec Dieu. Une ville où chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus-Christ a une belle maison pour vivre cette relation toute l'éternité dans la présence de Dieu. La place, la connaissance de notre destination, c'est le premier élément pour mettre fin à nos angoisses. Deuxième élément, le passage, versets 5 à 7. Et deuxième question qui est posée à Jésus, Jésus, comment on peut y aller ? Ça a l'air chouette. Alors, moi, je veux bien, je suis rassuré, mais comment on s'y rend ? Par quel chemin ? Donne-moi l'adresse que je puisse l'entrer dans mon Google Maps ou sur Waze. Verset 6, Jésus dit, c'est moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Comment venir à Dieu ? Comment trouver cette place ? D'après Jésus, d'après les mots qui sortent de sa bouche, c'est uniquement possible par lui. Il n'est pas un chemin. Il n'est pas une vérité. Il n'est pas une vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul, personne ne vient à Dieu que par lui. Et là où il est, nous serons aussi, parce qu'il est le passage qui nous amène directement au Père. Et ça, c'est profondément choquant à nos oreilles. C'est choquant. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que Jésus il est en train de dire ? Il est en train de dire qu'il n'y a pas d'autre alternative pour aller à Dieu, pour trouver cette place. Il faut passer uniquement par lui. Eh bien, nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas cette idée d'être exclusif. Nous, on veut être inclusif. On veut dire que Jésus est le passage pour aller à Dieu, mais à nos oreilles, ça sonne quand même profondément intolérant. Un tantinet orgueilleux, vous êtes d'accord ? Mais il faut savoir que ce n'est pas un problème de tolérance. La tolérance n'a jamais été la définition de croire et d'affirmer qu'il n'y a pas de vérité exclusive. La définition de la tolérance, c'est accepter que des personnes différentes aient des opinions et des convictions différentes sur des sujets importants. C'est ça la tolérance. Ce n'est pas un problème de tolérance donc. Et ce n'est pas un problème d'orgueil aussi. Les gens qui se considèrent ouverts et qui affirment par exemple, que c'est odieux de penser qu'il y a un seul chemin pour aller vers Dieu et que finalement toutes les religions mènent à Dieu. En fait, elles ont un souhait louable. Il faut quand même le reconnaître. Quel est ce souhait louable ? C'est la bienveillance. C'est qu'on soit tous humbles. Il faut qu'on s'accepte les uns les autres. malheureusement, leur ouverture n'amène pas à plus d'humilité, mais aussi à l'orgueil. La croyance, il n'y a pas de vérité exclusive. Toutes les religions mènent à Dieu, est en réalité quoi ? Une vérité exclusive aussi, qui exclut toutes les autres religions, toutes les autres convictions qui affirment qu'il n'y a qu'une seule vérité. Vous me suivez ? Alors on raconte une légende, peut-être certains l'ont déjà entendue. Un roi qui était mal dans sa peau, qui était pétri d'angoisse concernant la vie et la mort, souhaite trouver le réconfort dans une religion. Oui, mais laquelle ? Il y en a tellement. Il invite tous les représentants des grandes religions du monde qui leur font un exposé de leurs convictions fondamentales. Malheureusement, après les exposés, le roi en ressort confus. Que choisir parmi toutes ces religions ? Il y a tant d'options. Le conseiller du roi s'approche de lui et lui raconte cette parabole que peut-être vous avez déjà entendue. Tu vois, sire, toutes ces religions, finalement, ce ne sont que des aveugles autour d'un éléphant. Et puis, il y a une religion qui prétend connaître Dieu, mais en fait, elle est juste au bout de l'éléphant, en train de tenir la queue de l'éléphant. Et comme elle est aveugle, elle tâtonne comme ça, et elle dit « c'est flexible, c'est long, ça doit être un serpent ». Oui, c'est ça, la réalité, c'est que c'est un serpent. Et puis, il y a un autre aveugle qui est sur les flancs de l'animal et qui cherche comme ça. Il dit « Non, cher ami, je pense que tu as tort, c'est long, c'est large, c'est haut, c'est une montagne ». Oui, la réalité, c'est que c'est une montagne. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est en bas, en train de saisir la patte de l'animal et puis qui le touche comme ça et qui fait « Mais non, les gars, attendez, ça a plutôt la forme d'un tronc, là, ça monte un petit peu comme ça, c'est un tronc d'arbre ». La réalité, c'est que c'est un tronc d'arbre. Et le conseiller de conclure, tu vois, sire, toutes les religions, finalement, elles ne détiennent qu'une partie de la vérité. Donc on ne peut pas choisir. Toutes les religions mènent à Dieu. Mais il y a un problème avec la manière dont cette parabole est racontée. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Il y a au moins une personne qui voit la réalité dans son entièreté. C'est qui ? C'est la personne qui raconte la parabole et qui dit « La réalité, c'est que toutes ces religions qui sont des aveugles, elles sont autour d'un éléphant. » Donc vous voyez dans quelle position la personne se place, loin d'être une position d'humilité en disant « On n'a pas la vérité, il faut chercher tout un peu. » Non, il y a une personne qui sait que la réalité, c'est un éléphant. Vous me suivez ? La personne est en train de dire « Moi, je sais que Dieu, c'est l'éléphant. Moi, je vois qui il est. Moi, je sais que vous qui pensez que vous avez la vérité, vous n'êtes que des aveugles autour d'un éléphant. Ben, j'aimerais quand même suggérer qu'on est plutôt dans une position d'orgueil plutôt que d'humilité. » En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on ne peut pas faire autrement que d'affirmer des vérités exclusives. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour nous parce que ça va mettre un terme à nos angoisses. Dans la personne de Jésus, nous savons, parmi toutes ces religions, il n'y en a qu'une qui mène au Père. Vous savez que les Hébreux utilisent le verbe « marcher » pour parler de l'existence. Donc quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est marcher à la suite de Jésus. « Je suis la vie, je suis la vérité. Si vous mettez votre confiance en moi, je vous amène la place, la maison rêvée auprès du Père. J'en connais le chemin. » Et dans quelques chapitres, Jésus va mourir sur la croix et va ressusciter pour aller dans la présence du Père. Donc nous pouvons le suivre. Nous savons qu'il y est allé. Il connaît le passage. Oui, mais bon, là, c'est bien beau, on est dans l'église. Ok, on peut dire ça. Ça va pas être facile, hein, à lundi ou cette semaine, comme ça arrivait à quelqu'un, de dire ces choses aussi. C'est plus dur dans la réalité. Comment tu prouves ça ? C'est quoi la preuve ? Bien, Jésus vient d'affirmer qu'il est l'accès direct vers le Père, qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire, et donc Philippe demande la justification. Et le lien entre le verset 7 et le verset 8 nous amène à notre dernière question. Est-ce qu'on peut encore regarder ce petit passage ? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez aussi. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit, on te croira. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Alors, on ne sait pas si Philippe, il est sceptique ou il est inquiet. Peut-être on ressent un peu de l'inquiétude, là. Qu'est-ce que ça veut dire de vraiment mettre sa foi en Jésus ? Hein ? Et Jésus, on ne sait pas s'il est en train de lui faire un reproche ou s'il est en train d'apaiser les craintes. Moi, je pense qu'il est plutôt en train de continuer à apaiser les craintes. Que votre cœur ne se trouble pas. Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et est-ce que Jésus est qualifié pour dire qu'il est le seul chemin? Imaginez que vous devez acheter un nouveau lave-vaisselle. Dépenser une certaine somme d'argent, une grosse somme d'argent pour certains d'entre nous. Devant vous, il y a des centaines de modèles qui ont l'air tous aussi bien que les uns les autres. Alors vous regardez les caractéristiques, mais vous n'y comprenez que dalle. Alors vous demandez de l'aide, l'angoisse de choisir. Quelqu'un s'approche de vous, il vous s'adresse à vous et puis il vous présente le modèle qui est le meilleur, selon lui. Vous lui parlez, vous lui demandez les caractéristiques. Est-ce que ça va bien ou correspondre? Tout à fait. Il connaît son truc. Alors vous enchaînez avec une question piège, hein, parce que vous êtes un... On ne va pas vous avoir, vous. Hein. Est-ce que vous-même, vous utilisez ce lave-vaisselle? Oui, c'est le meilleur. Et là, le vendeur vous glisse une dernière petite information qui... Ça fait tilt. En fait, si je connais si bien ce lave-vaisselle, et que je peux vous garantir que c'est meilleur, c'est que moi-même, j'en suis le constructeur. Alors peut-être ça ne vous a pas frappé lors de la lecture, mais l'insistance du traducteur sur cette phrase, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie », est en fait une tentative de traducteur de nous faire comprendre que Jésus est en train de déclarer « Je suis celui qui est, je suis Yahweh ». Le Dieu de l'Ancien Testament, qui est souvent associé dans l'Ancien Testament au chemin, à la vérité et à la vie. Si je connais si bien le lave-vaisselle, si je connais si bien le chemin, c'est que j'en suis le constructeur. À ma connaissance, aucune autre personne n'a osé dans l'histoire de l'humanité faire cette déclaration. Dans aucune autre religion, il y a une personne qui affirme elle-même être Dieu. Mohammed n'a jamais dit qu'il était Dieu dans l'islam. Bouddha n'a jamais dit qu'il était Dieu dans le bouddhisme. Soit Jésus est vraiment celui qu'il dit être, Dieu en chair et en os, en personne, devant nos yeux. Soit, c'est le plus grand charlatan de toute l'histoire de l'humanité. Il va prouver, en fait, qu'il est vraiment celui qui dit « est ». Non seulement il le dit, « Je suis Dieu », parfois nos amis musulmans nous disent « Mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu ». Il vient de le dire. « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Jésus a complètement eu la prétention de dire qu'il était Dieu. Et deuxième chose, c'est ce qu'il nous dit dans la suite de ce passage, il a fait les œuvres de Dieu. Il a guéri. Il a multiplié les pains. Il a ressuscité un mort. Personne cette semaine a vu ça? Oh, j'ai vu mon cousin faire ça la semaine dernière, c'était cool. Non. Jésus est unique. Je vous lis juste ces versets 14. Oh là là, Il est le seul à avoir prétendu être au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il dit ensuite, et là je reprends notre texte, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, sinon croyez-moi au coin à cause de ses œuvres. » Il dit qu'il est Dieu, et il fait les œuvres de Dieu. Et certaines des personnes autour de lui reconnaissent qu'il est Dieu. Soit nous avons ici vraiment Dieu en personne, soit nous avons affaire à la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité. Donc comment mettre un fin à toutes nos angoisses de séparation concernant la vie et la mort ? Eh bien la fin de toutes nos angoisses, c'est de croire et de connaître Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Dès lors que je mets ma foi en Jésus, dès lors que je lui fais confiance pour répondre à mes questions sur la vie, sur la mort, ça y est, je suis à lui pour la vie. Je sais où je vais. Il me garde une place au chaud. Je connais le passage, c'est rassurant. Il est le chemin. Il m'en donne la preuve, car il est vraiment, vraiment Dieu. C'est la fin de toutes nos angoisses. Et mes amis, l'enjeu est vertigineux. Parce qu'avec cette phrase exclusive, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus auront la vie, mais que ceux et celles qui refuseront Jésus connaîtront le jugement et la mort. Et donc j'ai réfléchi à des moments cette semaine où quand est-ce que j'oublie ça ? Quand est-ce que je ne crois plus ça ? Et là, le moment où ça m'est apparu le plus clair cette semaine, c'est souvent en fait devant mes amis. Parce que je crois sincèrement que nous croyons en Église que Jésus est tout ça. Mais je me demande juste à quel point nous le croyons vraiment. À quel point nous croyons toutes ces choses. Devant mes amis cette semaine, je peux encore en témoigner. C'est si important de le dire, mais je n'ai pas osé déranger. Je n'ai pas osé faire un lien avec Jésus dans mes conversations. De pouvoir saisir une occasion de présenter Jésus. Et c'est pourquoi, je le reconnais, j'ai besoin d'aide. Comme je crois que peut-être beaucoup ici ont besoin d'aide. Pour affirmer cette vérité exclusive. Elle met un terme à nos angoisses existentielles, mais elle est très difficile à communiquer autour de nous parce qu'on a peur. Moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de puissance. Et c'est pourquoi je crois qu'à la fin des versets 12 à 14, Jésus fait l'application pour nous en nous montrant que justement, il est là pour nous donner cette puissance, ce courage dont nous avons besoin pour annoncer une vérité qui dérange. Versets 12 à 14. « en vérité, je suis en train de terminer. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ces versets sont utilisés par certains chrétiens pour affirmer que les vrais croyants authentiques pourront accomplir les mêmes miracles que Jésus, multiplier les pains, guérir les malades, ressusciter les morts. En réalité, je crois que Jean essaye ici de faire un lien entre la parole et les œuvres. Un peu plus haut, il a dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Quelles sont ces œuvres ? On l'a vu au verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis... Je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. » Donc, parole et œuvre ici sont synonymes. De quelle parole Jésus est-il en train de parler ? Eh bien, ces paroles qu'il nous a données à communiquer autour de nous, qu'on peut faire en son nom, c'est que Jésus va bien vers son Père. Il va mourir et il va ressusciter. Et par sa mort sur la croix, il va ouvrir le passage vers celui qui est la vie. Et en le suivant par ce passage dans la foi, nous allons tous être conduits à sa suite, auprès du Père, au paradis. Et il nous prépare une place. Il est le chemin. Il nous a donné la preuve. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont angoissés. Angoissés par la question de la mort, et c'est normal d'avoir peur. Il y a quand même devant nous une échéance terrifiante. Savoir qu'on va mourir, c'est un peu comme marcher au bord d'un précipice. Et pas mal de mes amis ont cette petite phrase pour les rassurer, on vit, on meurt, c'est ça la vie. Mais au fond, on sait tous que c'est pas vrai. On n'a pas été fait pour ça. Alors qu'est-ce qui pourra répondre à cette angoisse existentielle profonde que nous avons tous? Jésus nous donne de l'assurance cet après-midi. La confiance en Jésus et la connaissance de Jésus mettent réellement un terme à toutes nos angoisses. Je vous propose de prier pour faire un point par rapport à où nous en sommes, jusqu'à quel point nous croyons ce que nous avons vu ensemble. Seigneur, je sais que nous savons que c'est choquant ce qui est affirmé ici. Ça dérange. Je te prie pour ceux et celles qui sont dérangés, que tu puisses les rassurer, leur parler des demeures que tu prépares, leur parler de la preuve que tu es bien celui qui tient ses promesses et qui nous amène là où nous voulons tous aller, au paradis. Je prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu aides aussi, nous aides en tant qu'Église à aussi faire preuve de courage, d'oser déranger, d'oser en parler, de l'importance de se positionner par rapport à Jésus. Il a la vie et la mort entre ses mains. Il est la vie et il a montré son autorité sur la mort en montrant de manière inquestionnable par sa résurrection d'entre les morts. Amen.